C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui touche directement au travail des médias en période de conflit, la volonté affichée des pouvoirs publics de contrôler l'information pour limiter les risques de propagation des discours jugés dangereux, Babel.
Oui, Polly, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo ne se limite pas aux zones sous occupation. Elle influence l'ensemble du pays, y compris le droit à l'information et le fonctionnement des médias. Dans ces périodes de guerre, les États ont tendance à mettre en place de mécanismes de contrôle pour éviter l'escalade des tensions et limiter la propagation de discours jugés dangereux. Mais où placer la limite entre la nécessité de protéger la sécurité nationale et la censure?
C'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui, hein, Babel. La menace de fermeture de certains médias, la restriction de l'accès aux réseaux sociaux, l'encadrement plus strict des discours publics, ces mesures suscitent des interrogations et divisent. On a vu récemment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, menacer de sanctions les médias annonçant la prise de nouvelles localités par les rebelles du M23 sans communication officielle. Cette question, Babel, dépasse nos frontières. On a vu des mesures similaires prises dans le contexte de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie et même dans le conflit en cours actuellement en Palestine.
Ces décisions visent-elles réellement à prévenir les dérives en termes de prolifération de fausses informations ou de propos jugés dangereux, ou sont-elles utilisées plutôt comme un instrument de contrôle politique? C'est l'une des questions que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités.
Nous avons avec nous Oboul Okwes, il est enseignant à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Bonjour Oboul Okwes et merci d'être avec nous.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Également avec nous, Didier Mukaleng-Makal, docteur en sciences de la communication et de l'information et enseignant à l'université de Lubumbashi. Bonjour, monsieur Mukaleng-Makal.
Bonjour, madame. Bonjour, messieurs.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cet échange, nous vous proposons d'écouter un premier sketch radiophonique. Il met en scène un groupe d'étudiants blogueurs qui débattent sur ce qu'ils peuvent publier ou non sur le blog universitaire qu'ils animent. On écoute.
Oui. Est-ce que tu sais que jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé des mots qu'il faut pour bien décrire cette crise prévue au campus?
T'as raison, Kitoko. Je trouve que ces mots ne sont pas assez forts. Il nous faut des mots plus choquants.
Ouais.
Comme là, ça, quand raison. On va les poster sur le blog de l'université, ça va bouleverser.
Oui, tu as raison. Attends. Voilà, je crois avoir une idée. Et si on disait, par exemple, hein, si on disait ces ennemis qui ont provoqué la crise au campus doivent être tous éliminés, tu trouves pas?
C'est une bonne idée, mais...
On peut aussi ajouter
d'abord.
Tout comme on peut arranger, tout comme on peut enlever. Donc voilà. Et attends, par exemple, nous, étudiants légitimes, n'allons pas nous reposer avant d'avoir tué tous ceux qui étaient impliqués dans cette crise à l'université. Ça, je prends.
Mais tu veux dire tuer? Ne risquons-nous pas trop de durs sur le temps?
C'est justement ça l'objectif, papa. C'est ça l'objectif même. On peut déjà poster. Moi, je suis prêt en tout cas.
Kitoko, tu es sûr? Le message est tellement dur.
Papa, il faut battre le fer quand il est chaud. On doit être suffisamment ferme, Yaya, ferme. D'ailleurs, pour que le poste ait plus de force, on signe que le message est conçu par tous les étudiants du campus pour exprimer l'exaspération, quand même. Hein? Tu vois, tu trouves pas?
Ok.
La mouka
moi, je t'ai fait confiance. Moi, je t'ai fait confiance.
Attends. Je vais. C'est fait. Voilà. C'est fait déjà.
« Il nous faut des mots plus choquants, comme ça qu'on va les poster sur le blog de l'université. Ça va bouleverser, martèle l'un des étudiants. Ma première question est pour vous, Didier Moukaleng-Makal. En période de guerre ou de crise, quelles sont les justifications avancées par les autorités pour encadrer la diffusion d'informations jugées sensibles?
En situation de guerre, comme c'est arrivé chez nous, les mesures qui sont prises ou annoncées par le gouvernement, c'est au nom de la sécurité, de la paix et de la quiétude publique. Mmh. Et à ce titre-là, on voit parfois qu'on prend des décisions qui étonnent certaines personnes parce qu'on entend des gens se plaindre. Mmh. On rappelle aux médias qu'il y a des sanctions qui attendent. Et puis, oui, on a touché aussi en même temps aux réseaux sociaux. La question, c'est la justification, c'est au nom de la sécurité, de la quiétude publique. Mais la bonne question qu'on peut se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que au nom de la quiétude, au nom de la sécurité ou de la paix, est-ce que les gens peuvent être privés de la bonne information? Parce que si on prend par exemple le cas de ceux qui sont dans des situations de guerre, mm-hmm. ceux qui sont liés directement à la guerre, quand ils n'ont pas accès à la bonne information, ça peut être un sérieux problème. Ça peut être même dangereux, ça peut coûter la vie à quelqu'un parce qu'il n'a pas eu juste la bonne information et ne s'est pas dirigé dans la bonne direction qu'il devait prendre.
Oui, Didier Moukaleng-Makal, est-ce que ces restrictions sont vraiment efficaces pour limiter la propagation des fausses informations, des propos haineux ou des propos susceptibles de semer la panique, d'après vous?
C'est toute la bonne question, mais si on regarde bien la situation récente qu'on a vécue et qu'on vit encore, si les médias traditionnels, radio, télévision, site web, se sont mis carrément au pas ou se sont réservés de rédiger, d'écrire sur ou de parler de cette situation, d'annoncer ce qui se passe, parce qu'il y a des sanctions directes qui peuvent se passer, qui mmh. peuvent arriver. Les gens n'ont pas arrêté d'en parler sans ces médias-là. C'est mmh. la preuve que il ne suffit pas simplement que les médias traditionnels, les journalistes en parlent pour que de nouvelles circulent. Et donc, en termes d'efficacité, on peut bien se poser cette question si c'est vraiment une solution de tenter de menacer les informateurs, ceux qui ont pour travail d'informer, ou il faudrait plutôt regarder la question d'une autre manière, sous un autre prisme.
Merci Didier Moukaleng-Makal pour cette première analyse. Je me tourne à présent vers vous, Oboul Okwes. On a vu certains médias ou certains utilisateurs de réseaux sociaux publier des contenus dénigrant l'armée congolaise ainsi que certaines autorités publiques. Dans cette situation de guerre, peut-on les considérer comme des propos dangereux pour le pays, Monsieur Oboul?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle dénigrement, mmh. parce que toute infraction doit être définie au préalable. Mmh. Il faut qu'il y ait un contenu. Est-ce qu'il existe quelque part un contenu au mot dénigrement des autorités? Mmh. Si cela existe, par exemple en temps de guerre, si on classe certains faits, gestes, propos comme étant du dénigrement, mmh. on peut classer ce que vous avez dit comme étant du dénigrement. Mais s'il n'y a pas cette infraction, ou si ça n'existe pas, ou s'il n'y a pas cette catégorisation, mmh. certains pourraient penser qu'il s'agit des simples restrictions. Mmh. On leur interdit peut-être d'avoir leur liberté.
Mais où se situe la ligne rouge entre la nécessité de protéger l'État et la censure pure et simple des organes de presse, Monsieur Oboul Okwes?
La censure, elle existe, et là, dans le cas présent dont nous parlons, mmh. il peut également exister la censure. C'est peut-être dans la manière de faire. Hein. Mmh. Par exemple, lorsque le CESAC dit que toute personne qui dit que ceci est arrivé, on ferme sa radio immédiatement. Là, c'est de la censure, mmh. franchement. Mais il y a moyen de faire des restrictions. Et l'État a le pouvoir de faire des restrictions. Mmh. En disant, par exemple, aux journalistes, vous allez être le plus responsable possible, mmh. vous allez être responsable des propos que vous allez tenir, si ces propos ont des conséquences sur les troupes. Par exemple, je disais, on ne peut pas démobiliser les troupes en temps de guerre. Mmh. Et ça, c'est une infraction qui est déjà instituée. Mmh. Et donc, si vous le faites, vous allez tomber sous le coup. Mais s'il n'y a pas cette institutionnalisation de cette infraction, mmh. et que quelqu'un, par exemple, passe pour dire « dès que vous faites ça, on vous ferme », ça devient de la censure, ça devient de l'arbitraire. Si ce n'est pas prévu que ça vient sur un coup de tête, ça devient de l'arbitraire.
Merci Oboul Okwes pour ces éclairages. Hein. Passons à présent à un deuxième extrait de notre sketch. On retrouve encore une fois nos jeunes étudiants apprentis journalistes. Cette fois-ci, ils sont confrontés aux réactions du public face au contenu qu'ils publient sur leur blog. On écoute.
Pas mal de gens réagissent déjà. Notre poste a déjà généré autour de 1000 réactions. Oh non, on a tapé le coup.
Non mon ami, non.
On a tapé.
Tu n'as pas bien regardé.
C'est
la montagne, la bipato. Je crois qu'on a plutôt des problèmes.
Quel problème encore?
Tout dit ni biloum, tout dit pas dit que c'est la biloum.
Quel problème?
Tu as vu les réactions? Beaucoup de gens s'en prennent à nous.
Hein? Mon Dieu! Les gens nous menacent là, ça c'est une menace! Non, il y a beaucoup de messages qui veulent s'en prendre à nous. Eh oui, maintenant on fait quoi?
Je propose qu'on corrige tout de suite.
Oui,
pour nous excuser.
Oui, c'est vrai, on fait ça tout de suite. Voyons si je peux faire quelque chose dans ce sens. Voyons. Oh, mais. Hein? Qu'est-ce qui se passe-t-il encore? C'est comme si je ne peux plus accéder aux messages.
Quoi? Oh. Comment ça? Attends, je vais revenir chez moi. Merde. Moi aussi, je n'ai plus accès.
Non, mais ça passe pas.
Hé, hey, quoi maintenant? Vous êtes fou ou quoi?
Tu calmes.
Non, pourquoi me calmer?
Tu calmes.
Non, mais j'ai été choqué de voir les messages que vous avez postés sur le blog de l'université. Et vous avez osé dire que c'est au nom de tous les étudiants. Vous êtes normal là. Et vous croyez que j'allais fermer les yeux pour ça?
Amani.
Non.
Qu'est-ce que tu as fait, Amani?
Singh dit que le langage. J'ai décidé de contacter l'université pour que votre message soit supprimé du blog de l'université.
Attends.
Oui, c'est moi. Oui.
Message n'est pas supprimé.
Oui.
Il osa bien.
Oui. J'accepte. Hey. Tous vos accès ont été supprimés. Et c'est à cause de moi.
Amani.
Oui.
Osa nani le mandatil lobby. Toi, tu es qui?
Minjo Amani.
Attends, tu te prends pour qui même?
Oui.
Cette mesure ne vise qu'à maintenir le flou sur ce qui se passe pour que la vérité ne soit jamais connue.
Qu'est-ce que c'est?
Non, mais on le sait.
Il est évident que l'université n'est qu'un conglomérat de comploteurs. On n'acceptera pas d'être muselé à cause de comploteurs comme toi.
Ça ne te fera pas
fermer ta bouche.
Et c'est un vrai lynchage médiatique. Je propose qu'on corrige tout de suite pour nous excuser, réagit l'un des étudiants apprentis journalistes. Didier Moukadeng-Makal, dites-nous, en période de crise, les mesures de restriction qui encadrent les médias ne risquent-elles pas d'amplifier la méfiance du public envers les institutions publiques?
C'est une question complexe, mais je pense que je peux y répondre deux volets. Le premier volet consiste à dire que ces mesures, quand elles ne rentrent pas dans ce que disait mon grand frère Okwes tout à l'heure, c'est que ça va finir justement par frustrer les gens parce que ça ne rentre pas dans l'ordre de la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est pour organiser le fonctionnement des médias, la régulation. Et le travail de régulation dans le cadre, par exemple, de ce qu'a dit le CESAC ou ce que peut dire le gouvernement congolais en matière d'information, la régulation relève de ce que la loi prévoit. Et donc, si ça sort du cadre de la loi, ça peut interroger les gens. Et la loi, elle est connue de tous ou elle est censée être connue de tous, du moins des professionnels du secteur. Alors, si on vient dire « vous donnez telle information en ferme », on va se demander « ça sort de quelle loi ?» Et là, justement, les gens peuvent devenir méfiants parce qu'ils vont se dire « ben, finalement, ce n'est plus dans l'ordre de la loi, mais ça relève de ce que une personne pense, et ce qu'une personne pense ne peut pas toujours être imposable à tout le monde. Alors, deuxièmement, le deuxième volet consiste à dire, oui, comme le disait M. Oboul, les autorités sont là avec le pouvoir de gérer des situations courantes. Et donc, c'est dans leur compétence de regarder quel type d'informations peuvent circuler dans une situation de crise comme celle-là, une situation de conflit violent, de guerre. Et donc, les autorités peuvent trouver des mécanismes qui responsabilisent, à mon avis. Mmh. Et c'est là, justement, je pense que ça peut renforcer la confiance. Aller vers la responsabilisation, la responsabilité assumée par des acteurs d'un domaine précis, par exemple les médias, les journalistes, je pense que ce serait la meilleure des solutions qui puissent être proposées dans une situation comme celle-là, parce que les gens assument ce qu'ils doivent faire. Ils savent que le code pénal dit, par exemple, que quand vous êtes jugé coupable, condamné pour l'infraction de démobilisation des troupes au front, vous êtes passible d'une telle peine.
Merci Didier Mukalenge. En période de guerre ou de crise, comme c'est le cas actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'un des reproches récurrents faits aux médias traditionnels et même aux utilisateurs des réseaux sociaux, c'est la propagation de fausses informations. Peut-on considérer ces fausses nouvelles comme un réel danger pour la sécurité nationale au Boulokwes? Si oui, dans quelle mesure?
Oui, les informations fausses ou les fausses informations sont un danger pour la sécurité nationale, sont un danger à double titre. D'abord, un, ça peut effectivement contribuer à la démobilisation de ceux qui veulent se mobiliser, par exemple les troupes, lorsque vous donnez des informations qui ne sont pas vraies, ces troupes allaient s'engager peut-être au combat, elles vont avoir peur de l'ampleur de ce qui se passe alors que ce n'est pas vrai. Là, c'est d'un niveau. Le deuxième niveau, c'est que en désorientant les gens, vous causez un autre problème de sécurité. Si au lieu que les gens fuient à l'est, ils ont fui à l'ouest, où se trouvent les troupes qui attaquent, vous aurez causé beaucoup plus de morts qu'avant. C'est toujours un problème de sécurité.
Merci encore une fois pour ces analyses. Passons à présent à notre dernier sketch radiophonique. On va voir comment les journalistes, les apprentis journalistes trouvent finalement un équilibre entre leur responsabilité citoyenne, mais aussi la liberté d'informer. On écoute.
L'université vient de sortir une note formulant des restrictions par rapport à la diffusion des fausses informations.
On s'en fout.
En rapport avec la crise de campus.
Votre censure est inacceptable. Les étudiants ont quand même droit à l'information.
Tout ça n'est qu'une façon cachée de nous censurer.
Mais il faut quand même aussi comprendre que dans une situation pareille de crise, si tout le monde peut diffuser n'importe quoi, avec n'importe quel langage, sans qu'il y ait une sorte de contrôle, ça peut aggraver la situation.
Voilà, vous avez vu vous-même les réactions quand vous avez posté les messages, non? Le fait que la plupart des réactions étaient des menaces directes montre directement les dangers pour votre sécurité.
Tu as raison. Vous avez vraiment raison. Mais nous, on voulait simplement plaider pour la liberté d'expression et le droit à l'information.
Toi aussi, Mbouyi. Tu comprends maintenant combien ces paroles exagérées peuvent être dangereuses, surtout dans des périodes de crise.
Ah, vraiment, c'est vrai. Ces messages auraient pu empirer les choses.
Mais les gars, je vais vous dire une chose. Les droits à l'information, oui. Mais je crois qu'un certain degré de restriction est nécessaire, sans toutefois museler la liberté d'expression, mais contribuer à ce qu'elle s'applique dans la responsabilité et le respect des autres.
Surtout ça, je crois que responsabilité
oui, et le respect des autres. Le respect mutuel, là, c'est très important.
Ainsi, tout le monde peut diffuser n'importe quoi avec n'importe quel langage sans qu'il y ait une sorte de contrôle. Ça peut aggraver la situation, concluant des étudiants blogueurs. Monsieur Obulokwes, dites-nous, quelles bonnes pratiques peuvent adopter les journalistes pour informer sans risquer de compromettre la sécurité nationale en période de conflit?
Oui, effectivement. D'abord, je voulais réagir parce que on a dit dans les sketchs tout à l'heure, si n'importe quoi, n'importe qui diffuse n'importe quoi sans contrôle. Pourquoi ils le disent dans les sketchs? Parce qu'aujourd'hui, l'information n'est plus l'apanage du seul journaliste. C'est beaucoup de personnes, d'autres personnes, qui librement peuvent diffuser de l'information par tous les canaux qui leur semblent possibles. Alors que ces personnes-là n'ont pas de responsabilité, mettons ça entre guillemets, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris l'usage des mots, le traitement de l'information. Mm-hmm. Ça, c'est le premier danger. Mm-hmm. Mais allons-y vers les solutions. Comme on disait tout à l'heure, la solution du côté des autorités, c'est de pouvoir impliquer tout le monde à la décision pour que ce soit crédible, pour que les gens aient confiance. Mais du côté des professionnels, des médias et des journalistes, il y a moyen de pouvoir trouver les mots et les angles qui vous permettent de dire les choses sans pourtant choquer. Je vais donner un petit exemple et je vais m'arrêter par là. Au lieu de parler directement de l'attaque d'un village, on peut parler des conséquences. Parce qu'en parlant des conséquences, par exemple, on a coupé les voies d'eau, on a coupé l'électricité dans un village, on peut faire un reportage dans les hôpitaux pour voir le nombre de blessés, pour voir le nombre de personnes qui souffrent de dysenterie, et remonter pour expliquer la cause, sans nécessairement commencer par dire qu'il y a d'abord une guerre, ainsi de suite, qu'on a pris telle ville ou telle ville, mais on peut partir des angles des conséquences. Traiter les conséquences pour remonter aux causes. Je ne pense pas qu'on vous reprocherait dans un article où vous êtes dans un camp de déplacés de dire que ces déplacés sont venus depuis tel jour parce que là où ils vivaient dans telle ville, la ville a été prise. Je ne pense pas qu'on vous reprocherait ça. Si on vous reproche, ça serait de la pire censure. Mais sinon, si vous avez parlé de la situation des gens, parce que c'est ce qui compte le plus, c'est protéger les gens. Si on parle des gens, de leur situation. Et puis, on vient expliquer les causes. Peut-être que cela serait moins choquant dans l'usage des mots, dans l'usage de l'angle, et ça pourrait peut-être passer un peu.
Merci, Oboul Okwes, pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, Didier Moukaleng-Makal. À votre avis, quelle approche permettrait aux autorités et aux médias de collaborer utilement en période de conflit ou de crise pour assurer finalement une information fiable sans restreindre indûment la liberté de la presse et le droit de la population à accéder à l'information, Didier Moukaleng?
La première des choses, à mon avis, c'est de rendre disponible l'information et la bonne information. Parce que parfois, elle manque et les gens se débrouillent comme ils le peuvent. Parfois, une situation arrive, par exemple, c'est arrivé à Goma. Nous sommes dans une situation confuse pendant 3 jours. Goma est tombé, Goma n'est pas tombé et les gens ne savent pas comment trancher, et parfois même des journalistes ne savent pas quoi dire dans une telle situation. Alors, il est très important que l'information soit disponible quand les gens en ont besoin. Ça veut dire, si le ministre ne peut pas être la personne qui puisse répondre à tout le monde, mais au moins qu'il établisse une cellule qui puisse donner de l'information à ceux qui en ont besoin, au moins aux organes bien définis et bien reconnus. Pour qu'eux aussi ne soient pas débordés par les sollicitations de tout le monde ou de n'importe qui. Ensuite, je pense qu'il est très important que des situations urgentes comme celles qu'on connaît maintenant soient prises en charge bien avant, c'est-à-dire par anticipation. Bien entendu, on ne peut pas prévoir qu'une rébellion arrive ou qu'on perde le contrôle d'une ville ou qu'une catastrophe survienne, mais on doit savoir que certaines catastrophes arriveront ou que le jour où il y a une telle crise de cette nature, par exemple, on s'y prendra de cette manière. Et dans ce cadre-là, on se met à préparer les gens. Je veux dire, peut-être qu'il faudrait intégrer justement, pas simplement dans les programmes d'enseignement, parce que c'est fait, le droit de la presse est enseigné dans les écoles de journalisme et de communication à RDC, mais des formations permanentes, rappeler aux journalistes ce que c'est la responsabilité avec des cas concrets. Comme le donnait M. Oboul tout à l'heure, il a donné une manière concrète de traiter une actualité chaude, importante, sans aller vers ce qui peut frustrer les gens. Mais alors... troisième chose, je pense que je vais finir par là, il faut considérer qu'aujourd'hui, M. Oboul l'a dit, les journalistes ne sont pas les seuls informateurs. Donc, pour s'informer, les gens n'ont pas besoin uniquement des médias traditionnels. Je veux dire les médias classiques, c'est-à-dire avec journalistes et rédaction. Les informations viennent par d'autres canaux. Que fait le gouvernement si les informations arrivent donc par d'autres canaux que par les canaux médiatiques? On l'a vu. Je pense que c'est là qu'il faut considérer ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Mais ici, je n'insisterai pas sur ce qu'on peut enseigner aux gens en matière d'information ou comment donner une bonne information, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont d'accord ou contre une décision gouvernementale.
Allô?
Et qui pourront dire des choses selon leur inspiration ou leur liberté. Mais je pense que c'est là qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, on prenne des mécanismes pour valoriser ce qui vient des plateformes digitales en ligne. Les réseaux sociaux ne disent pas que des choses qui ennuient, qui énervent. Même quand ils disent des choses qui ennuient, qui énervent, il arrive qu'on puisse en dégager des choses beaucoup plus significatives et constructives. Donc, les sociétés les plus résilientes sont celles qui savent prendre en compte et ajouter à leur système de gouvernance tout ce qui constitue comme, je veux dire, qui se définit comme des éléments perturbateurs qu'on peut appeler des bruits en communication. Les bruits doivent être bien gérés, c'est-à-dire la désinformation, les fausses informations ou carrément les rumeurs. Il va falloir qu'on soit en mesure au niveau gouvernemental de prendre en compte les rumeurs pour gouverner, c'est-à-dire. Et c'est que les gens pensent et comme ça, on avance.
Pour finir, Didier Moukaleng-Makal, que peut-on recommander au public consommateur de l'information? Les citoyens devraient-ils être plus sélectifs, plus judicieux dans leur consommation médiatique en période de guerre, Didier Moukaleng?
Oui, il est très important qu'on choisisse quel média, quelle source vous informe. Mmh. Quand il s'agit d'une guerre, il vaut mieux choisir les médias sérieux. Qui ont des gens qui ont pour travail choisir, chercher les informations, les traiter et les diffuser. Puisque certaines informations rendent un très mauvais service à la communauté, au pays. Et il faut que tout le monde en ait vraiment conscience. Et donc, l'État pourra à un moment décider de rompre la communication, par exemple, un réseau social est bouché ou ralenti. C'est tout le monde qui va en souffrir. Et donc, plutôt que d'aller vers des choses comme ça, il y a une responsabilité collective qu'on doit assumer, dénoncer par exemple des fausses informations, c'est-à-dire les signaler, toutes les plateformes digitales dont la possibilité de signaler une information fausse ou une insulte ou un discours de haine. Donc il est très important qu'au niveau communautaire, on s'assume et que tout le monde apprenne des bonnes pratiques qui sont constructives et de la démocratie et de la sécurité publique commune.
Merci Didier Moukaleng-Makal. Voilà qui nous permet de conclure cet échange passionnant. Nous retenons que la liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique, mais qu'en période de crise, elle est souvent mise à rude épreuve, Babel.
Oui, Pauli, il est essentiel de trouver un équilibre entre sécurité et information pour éviter que la nécessité de protéger l'État ne se transforme en musellement de la presse.
La question des mesures d'encadrement de la liberté de la presse en période de guerre n'a pas de réponse simple. Entre nécessité de préserver la sécurité nationale et risque de museler la liberté de la presse, la frontière est très mince, Babel.
Oui, d'un côté, on comprend la volonté des autorités de limiter les risques de panique et les fausses informations. Mais de l'autre, comment garantir aux citoyens un droit fondamental, celui d'être informé? La transparence est-elle un luxe en temps de guerre?
Très bonne question, Babel. En tout cas, une chose est sûre. En restreignant l'accès à l'information, on risque aussi de favoriser la prolifération de la désinformation. Car si les médias professionnels sont muselés, le vide est vite rempli par des sources peu fiables, Babel.
Merci encore une fois à nos invités Oulo Kouès et Didier Moukaleng-Makal pour la pertinence de leurs analyses. Merci également à Paul Badianyama qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et surtout, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
C'est Le Ton qui fait la panique est un magazine proposé par l'ONG La Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur notre site internet www.radiookapi.net et www.abarirdc.net.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.